Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dealmaker, le podcast juridique du Labo en partenariat avec le cabinet EY Venturi Avocat. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Siaka, avocat spécialisé en droit social, qui va nous parler de recrutement. Bonjour Laurent.
Bonjour Soline, bonjour à tous.
Alors déjà, peut-être qu'on peut commencer par ta présentation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
Je suis avocat au sein de Venturi Avocat depuis une grosse dizaine d'années maintenant, spécialisé en droit social. Donc c'est la matière que j'applique et que je travaille depuis de nombreuses années maintenant. On fait du conseil, on fait du contentieux, donc on voit un peu tous les aspects du droit social et du droit du travail et bien évidemment avec un prisme particulier pour les startups.
Très clair. Bon, ça tombe bien, parce que ce podcast à destination des entrepreneurs jeunes ou moins jeunes a vocation à répondre à un panel de leurs questions, et notamment des questions quand on doit commencer à recruter. On parle du béaba des premiers recrutements dans ce podcast. Qu'est-ce qu'on entend par recrutement ? Est-ce que tu peux nous faire un petit point déjà sur cette notion ?
Oui, effectivement, la notion de recrutement, c'est quelque chose qui, bon, dans le sens commun, c'est l'embauche de salariés. Effectivement, c'est la base du recrutement, mais il faut bien voir que dans le recrutement, c'est un peu plus large que ça. Et si on se penche sur ce qui est un peu plus à la périphérie des recrutements traditionnels, on a bien entendu tout ce qui est stagiaires, personnes qui ne sont pas des salariés, mais qui relèvent quand même du droit du travail. Et puis, on a aussi les prestataires externes, où il ne faut pas oublier de bien contractualiser parce que c'est un régime spécifique en dehors du droit du travail, mais ce sont des gens qui travaillent pour l'entreprise. Et puis, il y a les dirigeants. Et forcément, le statut du dirigeant social, c'est aussi une question qui est au cœur des premiers sujets qui doivent arriver pour le créateur d'entreprise. Quel statut je vais choisir, moi, personnellement, dans ma structure ?
Concernant le dirigeant, on peut peut-être revenir là-dessus. Est-ce que c'est une recrue également ? Quel est le statut ? Tu dois avoir souvent des questions dessus.
Oui, parce que le statut de base, on va dire, c'est le statut qui est donné par la typologie structure juridique. Donc, très généralement, ce sont des SAS, sociétés par action simplifiée. Donc, le statut du dirigeant découle, c'est celui d'assimiler aux salariés pour ce qui est du droit de la sécurité sociale. Mais par contre, ce n'est pas un salarié, il n'est pas soumis au droit du travail. Néanmoins, on voit souvent certaines situations où soit ce sont des anciens salariés qui deviennent dirigeants et qui conservent leur contrat, donc une première forme de cumul, ou au contraire, des dirigeants qui, parce qu'ils ont des fonctions spécifiques, notamment de recherche, notamment scientifiques, qui vont se dire, pour ces fonctions-là, je voudrais avoir un contrat de travail et éventuellement bénéficier, on va dire, des règles protectrices du droit du travail vis-à-vis d'entreprise et également vis-à-vis de tiers, comme peut l'être Pôle emploi. Bien que ce soit des situations extrêmement rares, mais ça peut s'envisager.
Peux-tu rappeler pourquoi un dirigeant ne peut pas avoir de contrat de travail quelles sont les conditions finalement pour contractualiser un contrat de travail ?
Effectivement, le lien principal, la notion principale, c'est celle du lien de subordination. Donc, ce qui veut dire que la personne doit être assujettie à un contrôle de son travail, à des directives qu'on lui donne, éventuellement à des sanctions. C'est ça, le rapport salarié. Or, le dirigeant, il dirige. Donc, forcément, il n'est pas soumis véritablement à un contrôle, il n'est pas soumis à des sanctions éventuelles, il n'est pas soumis à tout un tas de choses. Et le lien qu'il peut avoir, que ce soit avec ses associés ou que ce soit avec des structures sociétaires internes, un conseil d'administration ou autre, ce n'est pas un lien salarié. Donc, il faut bien distinguer cela parce que, effectivement, pour en venir au recrutement, ne peuvent travailler dans l'entreprise légalement, les salariés, bien sûr, les dirigeants mandataires sociaux, bien sûr, éventuellement des tiers extérieurs, des prestataires, mais par exemple un associé, il ne peut pas avoir de fonction opérationnelle parce qu'il n'a pas le statut pour avoir des fonctions opérationnelles.
Donc il faut forcément qu'il ait un contrat de travail ou qu'il soit dirigeant, finalement, c'est ce que tu dis.
Tout à fait.
Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un point qu'on voit souvent pour les startups qui n'ont pas cette notion en tête. Très clair. Donc, en matière de recrutement, on a fait un premier point. Est-ce que peut-être qu'on peut faire un point aussi sur, finalement, le droit qui est applicable à l'entreprise ? Soit tu es spécialisé en droit social. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur tout ça pour les futurs recruteurs ?
Le droit social, en fait, c'est la terminologie qui recouvre les règles juridiques du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Le droit du travail, ben, c'est les règles qu'on connaît, le droit de la sécurité sociale, on connaît un peu moins, mais par exemple, le statut social, les affiliations aux caisses, les cotisations sociales, c'est ça le droit social, le droit de la sécurité sociale. Donc, ça, ce sont les règles qui vont s'appliquer à toute entreprise française qui évolue sur le territoire, notamment national français. Donc, c'est les règles de droit.
Et pour une entreprise, les règles de droit qui s'appliquent, du coup, c'est bien sûr le Code du travail, mais aussi les conventions collectives. Est-ce qu'on a le choix de sa convention collective ? Comment ça se passe ?
Effectivement, tu vas avoir donc au-delà des règles légales, tu vas avoir ce qu'on appelle les règles conventionnelles, c'est-à-dire celles qui sont négociées. Alors, soit négociées au niveau de la branche d'activité de l'entreprise, donc ce qu'on appelle les conventions collectives. Donc, c'est elles couvrent toute une branche d'activité. Alors, effectivement, on a la branche d'activité Syntec, les bureaux d'études, on peut avoir la boulangerie, le commerce de gros, l'industrie chimique, la pharmacie. Donc, ce sont des règles qui couvrent toute l'entreprise, qui vont adapter les règles légales, entre guillemets, à un secteur d'activité. Et puis, si on descend d'un niveau encore, on a les accords d'entreprise, qui sont également des règles conventionnelles, et qui sont, elles, adaptées à chaque entreprise. Une entreprise peut, et notamment ça a été facilité ces dernières années, prendre un accord, on va dire spécifique pour son entreprise, qui va appliquer des règles légales. Et puis enfin, la dernière règle conventionnelle, c'est la règle individuelle, c'est le contrat de travail, c'est le premier niveau, c'est la règle qui va, on va dire, lier le salarié à l'entreprise. Mais effectivement, le choix de cette convention collective peut parfois poser question, parce qu'on va s'interroger sur quelle convention je dois choisir. Ben, en fait, généralement, on s'oriente grâce au code APE, au code NAF, en se disant, ben, mon code APE me dit ça, donc c'est telle convention collective. Alors, c'est pas tout à fait aussi simple, le code APE, c'est un indice, mais en fait, c'est l'activité principale de l'entreprise, c'est l'activité principale exercée par l'entreprise qui va déterminer le choix de la convention collective. Et c'est donc en fonction de cette activité qu'on va déterminer de quelle convention collective on relève. Alors parfois, on est à cheval sur plusieurs conventions collectives. Ben, on va essayer de trouver celle qui est la plus pertinente en fonction des salariés employés, en fonction de la typologie des salariés qu'on va avoir. On va dire, ben non, en fait, j'ai que des ingénieurs. Donc, je ne vais pas aller sur la métallurgie, c'est pas tout à fait ça. Moi, je travaille plutôt dans des bureaux d'études, donc je vais aller à Syntec. Ou à l'inverse, j'ai que des personnes qui ont des activités, une activité, mes futurs salariés, ben, ça sera des techniciens, ça sera des gens qui travailleront. Donc, peut-être que je peux utiliser métallurgie parce que ça correspond plus. Voilà.
Très clair. Est-ce que pour revenir, donc là on parle du droit applicable, est-ce qu'on peut revenir peut-être plus précisément sur le contrat de travail, vu qu'on parle du B.A.B.A. des premiers recrutements, et savoir quelles sont les clauses essentielles finalement, parce que des contrats, on peut en trouver voilà, en droite à gauche, ou se faire conseiller, bien sûr, pour la rédaction, ce qui est toujours mieux. Est-ce que tu peux nous dire finalement les points d'attention et les clauses essentielles de ces contrats à regarder ?
Oui, effectivement, le contrat, c'est... ben, c'est la base de la relation entre le salarié et l'entreprise. Et donc, quand vous allez lancer vos recrutements, ben, il faut que vous ayez cette base, que vous l'ayez déjà en main. Alors oui, tu as raison, on en trouve pas mal, on va dire, maintenant, en libre consultation. Mais la problématique est souvent de l'adaptation au poste et à la convention collective. Et c'est là où c'est important, parce qu'il y a un certain nombre de clauses critiques qu'il faut bien cerner. De manière assez caractéristique, tu as la période d'essai. Donc, il faut voir si ce qu'il y a dans le contrat, c'est raccord avec ce que dit la convention collective et le code du travail, puisqu'il peut, là, il y a pas mal de fluctuations. Donc, sur la durée, sur la possibilité de renouvellement, c'est déjà une première chose. Ensuite, tu vas avoir les clauses relatives au temps de travail, c'est très important. En France, le temps de travail, c'est 35 heures. Tout le reste n'est qu'une exception à la règle des comptes horaires du travail. Donc, certaines conventions collectives vont prévoir des possibilités d'annualisation, par exemple, du temps de travail, que ce soit par heure ou par jour, ce qu'on appelle les fameux forfaits annuels en jour. Mais il faut voir ce que dit la convention collective. Donc là encore, le seul contrat n'est pas forcément utile. Et puis, il y a des clauses très spécifiques, clauses de non-concurrence, les clauses de cession de propriété intellectuelle, qui sont aussi très importantes dans les contrats.
Et qui vont être regardées par les investisseurs potentiellement lors de tout audit de la société. J'imagine que ces clauses-là sont bien regardées.
C'est vraiment celles qui sont dans l'œil du cyclone. La clause de non-concurrence, c'est celle qui va permettre de protéger les intérêts de l'entreprise après le départ du salarié. Donc, pour éviter qu'il y ait une concurrence de la part du salarié. Alors, il faut faire attention parce que ce sont des clauses qui sont un peu complexes à manier et qui peuvent parfois se retourner contre l'entreprise. Parce qu'on pense souvent à tort que la clause, il faut l'activer, si je ne l'active pas, tout va bien. Ben non, la clause, elle est active dès qu'elle est contractée. C'est fini. Donc, à l'inverse, vous avez, dans certains cas, la possibilité de la désactiver au moment du départ du salarié. Mais là encore, il va falloir vérifier les conditions de la convention collective et de votre contrat de travail. Et puis, la clause de cession de propriété intellectuelle, très important aussi pour les entreprises innovantes. Là encore, on est dans le cœur du réacteur. Les investisseurs, ils vont regarder la protection de la propriété intellectuelle et la cession de la propriété intellectuelle. Et là encore, il est vraiment très important dans le contrat de vraiment faire quelque chose d'assez large pour que le salarié qui a une mission inventive pour l'entreprise, ben on s'assure bien que tout ce qu'il crée pour l'entreprise reste bien la propriété de l'entreprise et qu'il n'y ait pas de possibilité de contestation possible.
Ouais, c'est ça, et que la société ne soit pas une coquille vide finalement avec les salariés ou les dirigeants qui continuent à conserver la propriété.
Tout à fait.
On n'a pas parlé encore de rémunération. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on contractualise, comment quand on recrute, comment appâter des nouveaux talents et fidéliser des gens, quelles sont les pratiques actuelles en termes de rémunération?
Ouais, effectivement, ça fait partie des clauses essentielles, hein, bien sûr, la rémunération, même si là, en général, on ne se pose pas de problème, il y est toujours, il n'y a pas de problème de rétention. Mais oui, premier point déjà, là encore, la convention collective, qu'est-ce qu'elle me dit? J'embauche un salarié, je lui propose un poste avec une classification, une qualification professionnelle, cadre, non-cadre, etc. Forcément, ma convention collective va me donner des minima conventionnels. Donc, être prudent là-dessus, regarder si le salaire que je propose correspond bien au minima conventionnel de la convention collective. Ça, c'est important. Ça va être la rémunération, on va dire, de base traditionnelle. Ensuite, on va pouvoir compléter, améliorer celle-ci par des éléments qui vont aller venir, je dirais, faire une offre attractive pour le salarié. Il y a déjà les compléments de rémunération traditionnels variables. Donc là encore, c'est, ça peut être sous forme de prime, ça peut être de rémunération variable tout simplement. Donc ils vont être calculés sur différents ratios, que ce soit le chiffre d'affaires, que ce soit des objectifs quantitatifs généralement. Ça peut être qualitatif, mais c'est beaucoup plus compliqué à manier parce que ça doit rester objectif, comme ça on l'indique. Donc ça, c'est une autre forme de rémunération complémentaire, une rémunération variable, qui n'est plus fixe, qui est variable. Et puis après, il y a tous les avantages qu'on peut concéder aux salariés dans le cadre de l'entreprise, que ce soit des avantages en nature, véhicule de fonction ou autre, que ce soit des avantages liés à des choses qui vont être mises en place par l'entreprise, des tickets restaurants, des forfaits mobilité durable, la prime de partage de la valeur, la prime, la fameuse prime Macron, comme on l'appelait avant. Donc ça, c'est des éléments d'incentive qui peut être également mis en place. Et puis, tu peux avoir des éléments qui sont plus individuels, mais collectifs, mais ça, c'est assez rare. Les accords d'intéressement, les accords de participation, c'est assez rare dans les petites entreprises, mais pourquoi pas, ça peut s'envisager aussi. Et puis, in fine, bien sûr, tu as tout ce qui est non plus de la rémunération pure, mais qui est de l'intéressement au capital. Et là, on bascule sur, on va dire, un autre terrain, c'est de dire, voilà, je veux te récompenser ton investissement, je veux récompenser également ta fidélité, et donc pour cela, je t'offre la possibilité d'accéder au capital de l'entreprise sous certaines conditions, généralement des conditions de temps, et donc c'est une sorte de gagnant-gagnant, donc les fameux plans de BSPCE, les bons de souscription d'action, créateur d'entreprise, pardon, et donc ça va permettre là aussi d'avoir une certaine incentive tout en fidélisant le salarié, puisque c'est généralement, ces plans sont sur plusieurs années et pour pouvoir les exercer complètement, il faut rester dans l'entreprise.
Ouais, tout à fait, on le voit dans beaucoup d'annonces finalement, à savoir le montant de la rémunération plus un pourcentage en equity. On parle beaucoup avec des anglicismes dans ce domaine et effectivement qui parlent souvent de BSPCE.
Oui, c'est ça.
Un dernier point qui a la cote depuis notamment la pandémie du Covid, à savoir le télétravail. On le sait quasiment tous maintenant, enfin ça s'est beaucoup démocratisé. Est-ce que tu peux nous rappeler les règles en matière de droit social lié au télétravail qui va s'instaurer pour l'entreprise? Est-ce qu'il y a une indemnisation? Est-ce que c'est encadré? Comment ça marche?
Ouais, c'est la dernière grande révolution du droit du travail. Le télétravail a été, on va dire, quelque chose d'assez exceptionnel il y a encore quelques années. Ça s'est mis en place, effectivement, tout doucement avant Covid, mais c'était assez rare. Et puis, bon, voilà, nécessité faisant loi, tout le monde est passé pendant la période de confinement en télétravail et beaucoup de salariés ont souhaité rester tout ou partie en télétravail. Donc, la loi a couru un peu après la pratique. Donc, on avait des dispositions qui dataient de 2017-2018 qui permettaient de la mise en place de télétravail soit par accord d'entreprise, on en a parlé tout à l'heure, donc cette norme que tu adaptes au niveau de l'entreprise, mais si tu n'as pas de représentant du personnel et qui donc tu ne peux pas valablement prendre d'accord d'entreprise ou du moins difficilement, les ordonnances Macron 2017 permettent la mise en place de télétravail par ce qu'on appelle des chartes de télétravail. C'est-à-dire des décisions unilatérales de l'employeur qui va dire, ben voilà, comment nous, on va appliquer le télétravail dans l'entreprise, combien de jours j'accorde par semaine, par mois, par an, s'il y a une liberté totale, comment on les prend, enfin, qui peut avoir accès au télétravail, tous les salariés, que certains salariés, voilà. C'est cette charte qui va permettre de le faire. Après, bien évidemment, s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de charte, ça peut tout à fait se faire dans le contrat de travail. Là aussi, c'est une cause du contrat de travail, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut se faire dans le contrat de travail par la mise en place des conditions. Généralement, c'est le volume qui est important et la possibilité et les modalités de prise. Après, on distingue très, très généralement le télétravail qui existait avant, qui était le télétravail permanent. Mon entreprise a son siège à Paris, mon salarié à Nantes ou à Biarritz ou à Aix-en-Provence, je vais organiser ça. Et là, généralement, il y a une vraie clause contractuelle parce que c'est nécessaire. Et puis, il y a ce nouveau télétravail issu de la période de pandémie qui est ce télétravail ponctuel, occasionnel, quelques jours par semaine, quelques jours par mois, à discrétion du salarié, où là, généralement, on ne rentre pas dans une clause contractuelle, mais plus dans l'application d'une charte. Ça peut être une clause contractuelle. Ouais.
D'accord.
Et d'ailleurs, la problématique, tu l'as soulevée, et elle vient en complément de ce qu'on disait juste avant, de qu'est-ce qui peut rentrer dans la rémunération des incentives pour le salarié. Alors bon, là on est à la limite, c'est la fameuse indemnité de télétravail. Puisque c'est la question, c'est un peu un serpent de mer, est-ce qu'on a l'obligation, est-ce qu'on n'a pas l'obligation? Pendant un temps, on distinguait le fameux télétravail permanent, où là il fallait indemniser le télétravailleur, du fait qu'il... on va dire, accorde à l'entreprise un espace personnel, de l'électricité, du matériel éventuellement, etc. Et le télétravailleur ponctuel qui est choisi par le salarié, où là, on estimait qu'il n'y avait pas forcément d'indemnité à verser pour le télétravail. Ça évolue, et ça évolue quand même dans le sens d'une indemnisation dans tous les cas, notamment les dernières décisions, il y a des décisions qui sont tombées à Paris, le tribunal judiciaire, qui en fait, sous la notion générique de frais professionnels, considère que c'est des frais professionnels, et des frais professionnels, quels qu'ils soient, ils doivent être remboursés, même si ça constitue une indemnité de télétravail. L'URSSAF s'est adaptée, puisqu'elle a sorti un mini-barème, un peu comme pour les stagiaires, en deçà duquel il n'y a pas de cotisation sociale et il n'y a pas de justificatif à avoir. C'est un forfait qui peut être versé, ça. Voilà. Donc, c'est une question à se poser, mais ça ne doit pas être posé comme un problème, mais ça doit plutôt être envisagé comme un moyen d'être un peu plus attractif encore pour l'entreprise.
Oui, lors d'un recrutement. D'accord, très clair. Bon, je pense qu'on a balayé l'essentiel des points à connaître lors d'un recrutement, ce qu'il faut regarder, quel est le droit applicable, comment conclure son contrat de travail, quelles sont les clauses essentielles. Évidemment, j'imagine qu'il est préférable de se faire conseiller lors de cette étape clé, au moins pour les premiers recrutements. Toi, Laurent, tu as l'habitude de conseiller un certain nombre de startups à ce niveau-là. Est-ce que tu peux décrire ton rôle peut-être lors de ces étapes?
Oui, effectivement, c'est vrai que, comme on le disait en introduction, on trouve souvent des contrats un peu partout. La question, c'est pas vraiment le contrat, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire et comment on l'adapte à la situation concrète. Et on voit trop souvent des contrats qui sont plutôt pas trop mal faits, mais qui sont pas du tout adaptés parce que la rémunération convient pas, parce que le décompte du temps de travail est pas bon, parce qu'il manque telle ou telle clause. Voilà. Mais les clauses essentielles y sont, bien sûr. Donc, nous, comment on travaille, moi, comment je préconise, c'est qu'effectivement, on aide à mettre en place la matrice pour l'entreprise, pour ses trames de contrat de travail. Donc là, il y a un vrai investissement de la part de que l'entreprise dans ses premières trames. Et puis ensuite, ce n'est plus de l'accompagnement, où une fois que le dirigeant, on va dire, est familiarisé avec la gestion de son contrat de travail, ben, il va lui-même, on va dire, implémenter. Nous, on est là pour l'accompagner, pour dire, attention, là, je ne suis pas sûr, tu as vu les comptes du temps de travail, tu es sûr qu'on part là-dessus, la rémunération, je pense qu'elle ne va pas, voilà.
Pour faire poser les bonnes questions, finalement, aux dirigeants.
Exactement, exactement. Éviter les pièges, éviter les questions qu'on peut pas... plutôt poser les questions auxquelles on...
Bon, on n'aurait pas pensé.
Tout à fait.
Très bien, merci beaucoup, Laurent, pour tous ces éclairages. Et on espère vous retrouver nombreux lors du prochain épisode. Et n'hésitez pas à nous solliciter s'il y a d'autres questions complémentaires. Merci à tous.
Merci à tous, au revoir. Merci Céline.